Bonjour. Beaucoup de sujets de bien-être féminin sont encore tabous ou minorés. On n'évoque finalement pas, ou peu, notre fonctionnement cyclique et son impact sur notre qualité de vie, notre équilibre hormonal, le syndrome prémenstruel ou encore la périménopause. Et comme on n'en parle pas, on n'en sait pas grand-chose. Alors, nous avons décidé de partir à la rencontre de femmes de tout âge, avec des expériences très différentes, et de leur donner la parole sur leur rapport au corps et à leur cycle, ce que nous avons à cœur de nommer l'écologie corporelle féminine. Nous sommes Caroline et Anna, fondatrices de Millier. Vous écoutez un épisode de notre podcast Woman Body Ecology.
Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à toi.
Alors déjà, pour commencer, je vais te laisser te présenter.
Ah, d'accord, je m'appelle Julien Nidam et je suis chirurgien plasticien, je travaille à Marseille. Et tu m'as sollicité là pour parler de la reconstruction mammaire, qui est une activité que je pratique beaucoup.
Exactement. En fait, en ce mois d'octobre rose, on avait envie de se pencher plus précisément sur la question de ce qui se passe après un cancer du sein, c'est quoi l'après, et notamment au niveau de la reconstruction du sein des patientes. Et donc, tu as très gentiment accepté notre invitation et on t'en remercie. La première question que je voudrais te poser, c'est comment s'intègre cette chirurgie, qui est donc une chirurgie plastique, dans le cadre du parcours de soins du cancer du sein? C'est-à-dire, est-ce qu'on attend vraiment la fin des traitements, la fin des chimios, toute la fin du traitement d'oncologie, ou alors est-ce que ça peut être intégré avant? Comment ça se passe? Quelle est, toi, ta relation aux équipes d'oncologues?
Alors, en fait, si tu veux, ça peut intervenir à plusieurs moments du parcours de la patiente et quand les choses sont bien faites, mais ce qui honnêtement, en tout cas dans les réseaux de soins moi, dans lesquels je travaille, qui est toujours plutôt bien fait, selon en fait sa façon de voir les choses à elle, son niveau de préoccupation, ça peut intervenir à des moments différents. Mais généralement, c'est évoqué dès le début du diagnostic, c'est-à-dire que soit parce que la patiente est tout de suite demandeuse de sein, c'est-à-dire quand on lui dit « il va falloir vous opérer et vous retirer un sein », ou en tout cas retirer une partie d'un sein, il y a certaines patientes qui immédiatement vont dire mais à quoi ça va ressembler, expliquez-moi, et ça m'inquiète. Et dans ce cas-là, on leur présente rapidement un plasticien. Enfin, moi, si tu veux, en pratique, dans mon quotidien, j'ai un certain nombre de gynécos avec lesquels je travaille, qui, lorsqu'ils ont une patiente à qui ils annoncent un diagnostic comme ça, et que la patiente a une réaction où elle s'intéresse tout de suite au sujet de la reconstruction, ils vont généralement faire en sorte que je la rencontre avant même de commencer le traitement du cancer du sein. Elles viennent d'avoir leur diagnostic, elles disent « non mais je suis inquiet de ce à quoi ça va ressembler, je voudrais parler de ça », et ils vont tout de suite lui filer un rendez-vous avec moi, je vais la voir, tu vois, en général, la semaine d'après, tu vois, j'ai toujours des créneaux où je me débrouille pour caser des patientes que les gynécos veulent que je voie rapidement, et la patiente, comme ça, elle a le temps de se renseigner sur sa reconstruction avant même d'arriver au début de son traitement, que ce soit une chimio ou une chirurgie ou plus tard, en général, des rayons. Et t'as d'autres patientes qui vont pas avoir cette préoccupation-là trop marquée. On va leur dire dès le début, vous allez avoir une chirurgie mutilante sur votre poitrine et vous aurez des possibilités de reconstruction. Est-ce que vous voulez en parler maintenant? T'en as un certain nombre qui vont dire non, c'est pas le sujet pour moi. Je veux d'abord guérir et après on verra si j'ai envie de me réparer. Et il y a personne qui va dire aux patientes c'est pas le moment de parler de ça. Il me semble quand c'est le début, on peut leur dire, on leur donne toujours le temps si tu veux de se renseigner là-dessus. Et on va jamais leur dire on peut pas vous reconstruire ou machin avant que ça ait commencé. Quand moi je rencontre une dame qui s'apprête à se faire opérer d'un cancer du sein, que ce soit un traitement conservateur ou une mastectomie, ça me donne la possibilité de lui expliquer ce qu'on va faire. On va pas forcément décider à tous les coups de faire une reconstruction immédiate, mais c'est souvent ce qui se décide, ou en tout cas de démarrer la reconstruction tout de suite. Et t'as d'autres patientes, je te dis, qui ont suivi un parcours de soins standard où elles n'ont pas manifesté de désir particulier de reconstruction pendant la maladie. Elles vont se soigner et souvent, c'est au moment où elles vont faire un premier ou un deuxième contrôle, si tu veux, pendant leur rémission, où elles vont dire « bon, ben maintenant que l'oncologue m'a rassuré sur le fait que je suis vraiment en rémission, ça fait un an que j'ai fini mes rayons, ça fait un an que j'ai fini mon traitement, machin, et je vais bien ». Et à ce moment-là, seulement, elles vont dire « bon, maintenant que ça va bien, je voudrais parler de ma reconstruction ». Et c'est souvent, à ce moment-là, plutôt les oncologues, c'est-à-dire les médecins, ceux qui ont géré la chimiothérapie, en fait, plus que les chirurgiens gynécologues qui ont enlevé la tumeur ou fait la mastectomie, qui vont leur conseiller un ou plusieurs plasticiens à aller voir. Il y a un troisième aspect où, moi, c'est des patientes qui ont eu un traitement de cancer du sein plus ancien parfois, même des fois très ancien, bon, il y a 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, des dames qui ont eu souvent des mastectomies partielles qui vont faire ça, c'est-à-dire elles ont eu un traitement conservateur d'un cancer du sein, elles en sont sorties avec des seins asymétriques. Et c'était pour elles la séquelle, si tu veux, de leur cancer, et elles vivaient avec. Mais donc, je sais pas, la dernière, par exemple, j'ai pris en charge comme ça, c'est une dame qui a accompagné sa fille en consulte. La dame avait eu elle-même un cancer du sein, elle avait une soixantaine d'années, elle avait eu un cancer il y a 10-15 ans. Elle amenait sa fille en consulte qui, elle, avait 30 ans et avait, par exemple, je sais pas moi, enfin, là, en l'occurrence, je peux raconter le cas, mais des seins qui était un peu relâchée après ses grossesses, tu vois, une jeune fille qui a 30 ans, qui a fait 2 gamins, qui a fini de faire ses gamins, qui a des seins qui sont un peu vidés, sont un petit peu, qui pendent un peu, qui sont un peu relâchés. Elle était venue me voir, elle, pour faire une chirurgie esthétique du sein. On parle pendant une demi-heure, je lui explique des trucs, je lui montre des photos, du machin. Et puis quand ça se termine, il y a sa mère qui dit, excusez-moi, docteur, je pouvais vous poser une question juste à propos de moi, machin. Tu vois, t'as ça assez souvent dans mon métier. Et donc, ben, cette dame, en fait, elle me montre ses seins avec une asymétrie assez marquée, et elle me dit, mais pour moi, on peut faire quelque chose, en fait, tu vois, parce que, bah, une fois que tu as montré des photos, que tu as vu, que la dame a vu que des seins, ça pouvait se remodeler, tout simplement, elle dit, ah, mais en fait, je suis pas obligé de rester comme ça, moi. Et donc, tu as ça de temps en temps. Ça, c'est souvent, je te dis, des personnes qui ont été prises en charge il y a un peu plus longtemps, en quelque sorte, au départ, ou qui ont été prises en charge, des fois aussi, dans des régions où il n'y a pas trop de plasticiens autour, ou tu vois, des choses qui font que elle ne savait pas qu'elle pouvait faire quelque chose, et là, quand elles l'apprennent, elles se disent, mais en fait, moi, ça m'intéresse. Donc, tu as ces trois moments-là, grosso modo. Tu as avant même que le cancer ait été traité, tu as quand il a déjà été traité, et tu as des fois quand c'est vraiment ancien, au stade de séquelles, où on se dit, bah, j'aimerais bien, moi, réparer ma séquelle, puisque tout va bien et que je ne savais pas que c'était possible. Tu vois.
Ok, donc il n'y a pas de. En fait, vous vous adaptez vraiment à la patiente. Avant de poser la question suivante, j'ai deux questions pour toi. La
Je t'en
première,
prie.
c'est mastectomie, on sait ce que c'est, mais je pense que ça vaut le coup que tu t'en
D'accord, bien
reparles et
sûr.
que tu redéfinisses. Et traitement conservateur également, s'il te plaît.
Pardon, ouais, je suis désolé, c'est vrai. Alors, en fait, l'opération, si tu veux, bon, moi, je m'intéresse pas mal à l'histoire de la médecine. Voilà, comme quand on le fait sur un plan historique, tu vas comprendre, c'est prodigieux. Le premier cancer qui a jamais été guéri chez l'homme par des médecins, c'est le cancer du sein. Il y a un type qui s'appelait Hallstatt qui a inventé la mastectomie, qui a inventé une opération qui consiste à enlever le sein en conservant, en gros, ce qu'il faut autour du sein, c'est-à-dire en particulier les ganglions de les aisselles, les vaisseaux, les machins qui sont autour. Donc, il a trouvé une technique chirurgicale qui permettait d'enlever l'organe sein, déjà sans mutiler plus que ça la patiente, c'est-à-dire, et de cette manière-là, guérir totalement et définitivement le cancer du sein dans une partie des cas, c'est-à-dire en fait dans la partie des cas à l'époque où le cancer était encore localisé seulement dans le sein. Et donc ça existe depuis vraiment longtemps, je crois dans mon souvenir, c'était les années 1880, là, ce que je te décris là. Et cette opération, aujourd'hui on l'appelle la mastectomie totale, ça consiste à enlever la totalité du sein, c'est-à-dire le sein, tel que, enfin, le volume qu'on voit et qu'on interprète comme le sein, et puis aussi l'aréole et le mamelon, qui sont donc en gros les organes centraux du sein, qui sont en fait dans la peau des cellules mammaires. Une aréole, un mamelon, c'est des cellules de sein qui sont au contact de la surface de la peau. Et donc, du coup, si on veut être certain d'avoir enlevé la totalité du sein, et donc assurer à une patiente qui a un certain type de tumeur, que tout a été retiré, c'est cette opération-là qui est l'opération, si tu veux, qui a été mise au point en premier, la mastectomie totale. Et en fait, sur les dernières années, enfin les dernières décennies, hein, ça fait déjà un petit moment, on s'est aperçu que quand un cancer est suffisamment localisé et suffisamment petit, bon, tu as des critères pour ça, on peut, et que le sein lui-même est plus volumineux que tout ça, quoi, tu peux enlever seulement la tumeur avec une marge de sécurité autour, l'envoyer en analyse, vérifier que tu as bien tout enlevé. Donc ça, des fois, tu peux faire la vérification carrément en péropératoire. Bon, peu importe si tu opères, tu enlèves le truc, tu vas faire une radio de ce que tu as enlevé, tu vas l'analyser, machin, pendant que la patiente est endormie pour être sûr que tu as vraiment enlevé tout ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, tu as fait une mastectomie partielle. Et en fait, toutes les mastectomies partielles, toutes les variété de mastectomie partielle qui peut exister, c'est regroupé sous le concept de traitement conservateur du cancer du sein, par opposition à mastectomie totale. C'est-à-dire, c'est un traitement conservateur dans le sens où il conserve le sein, mais il enlève le cancer. Et chaque fois que c'est possible, en gros aujourd'hui, c'est-à-dire chaque fois que ça nous donne une perspective de guérison équivalente à la mastectomie totale, ben évidemment, ce qu'on propose, c'est une mastectomie partielle. Donc, t'as ces deux. Enfin, ça a répondu à ta question? Ouais.
Oui, complètement,
Bon,
complètement.
ok.
Ok, donc en fait, ce que je retiens moi, c'est que l'équipe soignante s'adapte en fait au désiderata de la patiente, c'est-à-dire ce qui elle va causer de l'angoisse et de l'anxiété chez elle. Donc, est-ce que l'aspect des seins, en fait partie ou pas. Toi, quelle est ta prise en charge, comment dire, quel est le protocole que tu préfères? Toi, tu préfères être mise en amont tout de suite ou comment ça, prise en charge d'un plasticien, c'est quoi le plus confortable?
Oui. Alors, j'avoue que c'est assez intéressant quand une patiente, elle est motivée par sa reconstruction, de la rencontrer très tôt. C'est vrai que c'est très intéressant parce que, si tu veux, ça permet, en fait, que tous les champs des possibles restent ouverts. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui seront, certaines techniques qui seront plus disponibles, ou en tout cas plus disponibles dans leur version la plus simple, disons, lorsque du temps a déjà passé et que certains choix ont déjà été faits. C'est-à-dire que quand tu rencontres une patiente un an, deux ans après sa mastectomie, qui a déjà eu des rayons, des choses, tu arrives sur une situation et tu as, honnêtement, franchement, on dispose de plein de techniques différentes, donc on peut arriver grosso modo à des résultats similaires, quel que soit le chemin qui a été pris. Mais quand tu arrives à distance, tu as parfois, pour arriver à la même chose, des étapes qui vont être un peu plus longues ou un peu plus fastidieuses. Je te donne un exemple très simple, mais quand il y a eu une mastectomie totale et que le choix de reconstruction, le choix en gros de reconstruction du volume va être une prothèse, c'est-à-dire un corps étranger qui va être mis dans la poitrine de la patiente pour si tu veux, pour remplir le volume du sein qui est plus là. Si tu le fais à distance, souvent la peau thoracique, la peau de la poitrine, elle s'est replaquée, si tu veux, sur la poitrine, parce que la dame a cicatrisé, il s'est passé du temps, machin, et l'espace pour mettre sa prothèse mammaire n'est plus disponible, en quelque sorte. Et il va falloir le recréer. Alors, il existe des techniques pour le recréer, mais c'est toujours une difficulté. Et quand tu as une dame qui a une mastectomie et que, en même temps que la mastectomie, tu lui mets déjà quelque chose pour occuper le volume, en fait, qui a été enlevé. Moi, en général, dans ces cas-là, j'utilise quelque chose qui s'appelle un expander ou une prothèse d'expansion. C'est-à-dire, en fait, c'est un device, c'est un objet qui est comme une prothèse mammaire, mais dont le volume est variable. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la patiente. Elle a déjà été opérée, elle vient te voir en consulte et tu peux gonfler, dégonfler sa prothèse mammaire. Ce truc-là, c'est pas quelque chose de définitif. L'expander, c'est quelque chose qui permet, en fait, d'adapter la surface de peau avec le volume de ce qui se trouve à l'intérieur.
D'empêcher la cicatrisation.
Exactement. D'empêcher que tu perdes la surface de peau, en fait. Voire même recruter de la surface de peau supplémentaire. Par exemple, si tu veux, tu vas avoir une dame qui présente un cancer du sein, qui a, mettons, une dame qui a une silhouette assez fine, on va dire, okay, qui est un peu mince, machin, tu vas prendre une dame de 45 ans, qui fait, mettons, je sais pas, 50 kilos, tu vois, pour 1m65, machin, et qui a pas beaucoup de poitrine. Moi, par exemple, je vais la rencontrer avant qu'on lui fasse sa mastectomie. Souvent, la première chose que je vais demander à une dame que je rencontre dans ce cadre-là, c'est vous avez donc une maladie, on se retrouve à se rencontrer, on va devoir envisager de faire des opérations sur vos seins, mais ça vous tombe dessus. Mais si on prend deux secondes pour regarder votre poitrine, d'ailleurs avant même qu'elle ait été abîmée par le cancer, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez modifier ou est-ce que vous aimeriez vraiment qu'on reste exactement en l'état, tu vois? Bah, souvent, tu vas avoir cette dame-là qui va dire « Non, très honnêtement, moi, je ne serais jamais venu voir un chirurgien esthétique parce que ce n'est pas mon style. » Mais j'ai toujours trouvé ma poitrine trop petite et en fait, puisque vous allez vous retrouver à la trafiquer, je voudrais bien, moi, à la fin, qu'elle soit un peu plus volumineuse. Tu vois. Tu vas entendre ça peut arriver. Eh ben, une dame comme ça, c'est assez intéressant dans ce cas-là de, lorsqu'on va faire sa mastectomie, lui mettre une prothèse d'expansion immédiatement après la mastectomie, c'est-à-dire en lieu et place, en gros, du sein que le gynéco aura retiré pour traiter le cancer. Une prothèse d'expansion va permettre, en fait, de augmenter la surface de peau progressivement pour que cette patiente, elle puisse à la fin bénéficier d'une prothèse plus grosse que le sein qui a été mastectomisé, tu vois. C'est-à-dire qu'elle faisait un bonnet B, elle veut plus tard, en fin de reconstruction, avoir un bonnet C, et ben au moment de la mastectomie, je vais lui mettre un expander. Une fois qu'elle a fini de cicatriser, je vais gonfler progressivement cet expander. Au moment où l'expander, il aura atteint le volume qu'elle veut, elle va me dire, ah bah tiens, là, je me sens bien, j'aimerais bien que mes deux seins, ils fassent ce volume-là. Et ben, à ce moment-là, on lui fait une opération où on va remplacer l'expander, la prothèse d'expansion, par une prothèse, donc un peu plus grosse, et puis surtout qui aura une consistance plus agréable. Parce que une prothèse d'expansion, ça a une consistance pas très naturelle. Et parce que c'est rempli de sérum, en fait, c'est rempli d'eau, donc tu vois, ça a une consistance un peu de bombe à eau, quoi, tu vois, par rapport à une prothèse mammaire qui est quelque chose de beaucoup plus souple. Et de l'autre côté, elle va se retrouver avec aussi un implant qui va être mis en place, qui est l'implant qu'elle aurait mis en place si elle n'avait pas eu de tumeur et qu'elle était venue solliciter juste une augmentation de volume mammaire. Et donc, elle a un cancer du sein droit, par exemple. À droite, à la fin, elle aura une prothèse qui fera tout le volume de son sein. Et de l'autre côté, elle aura une prothèse de la même consistance, de la même nature, mais plus petite, puisqu'il lui reste un sein qui entoure cette prothèse, en quelque sorte, qui va être devant cette prothèse. Donc ça, cette situation-là, eh ben, si cette dame, elle vient te voir que 2 ans après sa tumeur, en général, elle a la peau qui est plus assez souple pour immédiatement lui mettre un implant plus volumineux. Donc tu vas repasser des fois par la case de l'expansion, et souvent en expansion, tu n'arriveras pas autant à obtenir de peau que si tu étais arrivé tout de suite au début du traitement.
D'accord. C'est formidable de dire que dans un parcours de soins qui peut être quand même très très éprouvant quand on parle de cancer du sein, on peut aussi avoir la perspective d'avoir à la sortie des jolis seins qu'on n'aurait peut-être pas demandé oui. Si on n'avait pas été malade, quoi.
Oui, il y a de ça. Et puis je te dis, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Enfin, entre autres, c'est un truc que j'aime beaucoup dans mon métier, en tout cas, c'est que si tu veux, tu vas en fait arriver dans le même si elle te consulte dès le début de leur maladie, t'es celui avec qui elle parle de choses pas trop tristes, pas trop désagréables. En fait, elles vont pouvoir exprimer avec nous une préoccupation cosmétique, machin, quand elles oseraient presque pas le faire, quand elles sont, tu vois, dans le service où elles font leur chimio, machin, tu vois, c'est plus compliqué pour elles d'aller dire à leur oncologue, j'ai envie d'être sexy, j'ai machin et tout, alors qu'avec nous, elles peuvent en parler. Et même quand elles sont malades, même au moment où elles sont, des fois, avec, tu vois, elles ont perdu leurs cheveux, machin, nous, quand on les voit en consulte et on gonfle l'expandeur ou ce genre de trucs, elles vont parler avec nous de choses qui sont... plus légère que ce que elle partage avec les autres soignants. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve très intéressant. Et effectivement, il y a énormément de patientes qui sont à distance de leur reconstruction, que moi je revois au quotidien et tout. Et c'est agréable de s'apercevoir qu'elles re-rentrent dans une vie de femme. Et franchement, pour une partie d'entre elles, parfois plus qu'avant, en quelque sorte. Tu vois, parce que t'as ce truc là de j'ai guéri d'une maladie, tu vois, c'est-à-dire ça fait cet effet-là à beaucoup de gens aussi de guérir d'une maladie et qui en plus est une maladie qui vient menacer leur féminité, ça leur donne envie de vivre leur vie de femme, tu vois. Et donc elles étaient des fois des dames qui avaient la trentaine, la quarantaine, machin, et qui n'étaient pas si préoccupées que ça par leur, alors moi je vais te dire silhouette puisqu'il s'agit de ça, c'est ça qui m'intéresse, mais au final sans doute par globalement leur assurance, tu vois, et leur présentation au monde avec une certaine séduction, un machin, des éléments comme ça. Et quand tu fais de la chirurgie du sein, tu t'en aperçois tout le temps, pour une partie des femmes, le volume de la poitrine, dans un range qui est raisonnable, c'est quand même quelque chose qui vient appuyer leur confiance en elles. Ça arrive pour une partie d'entre elles, et c'est ces patientes-là d'ailleurs qui, quand elles sont relativement jeunes, vont venir solliciter une augmentation de volume mammaire, donc ce qu'on appelle couramment se faire refaire les seins. Et tu vois ces dames-là, dont tu sens que leur présentation, elle change un peu. C'est-à-dire, tu les rencontres en consulte, grosso modo, elles ont une petite poitrine, tu sens qu'elles sont assez timides, qu'elles ont un peu du mal à poser leur voix, machin. Enfin, tu sens quelqu'un qui manque d'assurance. Et des fois, tu les revois plus tard avec leurs implants, entre autres, et tu sens qu'elles vont pas avoir la même posture, elles vont pas avoir la même démarche, elles vont tenir plus le regard, machin. Enfin, comme quelqu'un qui est plus sûr de lui. Bon, c'est l'effet, si tu veux, qui est habituel que tu rencontres quand les choses sont bien indiquées. Quand une dame, elle a eu, enfin, d'après moi, hein, ça reste là pour le coup juste mon avis, quand elle a bien fait de se faire refaire la poitrine. En gros, en pratique, t'as une dame qui, je veux dire, on peut être sûr de soi avec toutes les formes de seins qui soient, mais en tout cas, parfois, t'as des gens qui ont des complexes, qui n'ont pas la poitrine qu'elles aimeraient, machin, elles vont réparer ça et elles vont vraiment se sentir mieux. Bon, ça, moi, pour moi, c'est le sens de la chirurgie esthétique, ce que j'écris là. Et je prends bien la peine de dire esthétique et pas plastique ou réparatrice, c'est-à-dire la partie du métier de chirurgien plasticien qui consiste à faire de l'esthétique, pour moi, ça fait sens quand ça aide les gens à se sentir mieux, à avoir confiance en eux. Et ben, si tu veux, t'as des gens qui, avec la personnalité qu'ils ont, ne se sentent pas assez mal dans leur corps, en quelque sorte, pour solliciter une démarche dans ce sens-là. Mais par contre, au moment où elle se retrouve dans le réseau, il leur arrive un truc, il y a un incident de parcours, il y a un cancer du sein, elle rentre dans un rapport, notamment de se poser la question de leur silhouette et de la modifier avec un chirurgien, donc, qui en l'occurrence est réparateur à ce moment-là, mais c'est le même, c'est toujours moi. Et je vois bien qu'elles ont des préoccupations qui vont parfois rejoindre celles des patientes qui font la chirurgie esthétique. Et moi, je trouve ça plutôt, effectivement, comment dire, touchant et heureux de me dire, ces dames-là, elles se sont remises d'une maladie, elles en sont même à essayer d'améliorer leur apparence, et elles ont ces préoccupations-là qui peuvent paraître très futiles au moment où tu es en chimiothérapie et tu as peur pour ta vie, et ben qu'elles reviennent à un niveau justement futile, à une vie plus dérisoire que s'inquiéter pour sa survie. Ben moi je trouve ça formidable, ouais. Enfin c'est
quand même, tu les aides à faire diversion de la maladie, en fait.
Exactement, exactement. Et je sais, t'as certaines patientes qui ont besoin de nous dès le début de leur prise en charge aussi sur le plan psychologique, parce qu'elles s'imaginent du coup ce que ça va donner, à quoi ça va ressembler. L'essentiel de ce que je fais pendant une première consulte avec une dame avec laquelle je parle de reconstruction mammaire, c'est de lui montrer plein de photos de patientes qui sont passées par là. Et souvent, déjà juste, tu sais, de voir une cicatrice de mastectomie, de voir en fait ce que t'as imaginé et que t'as redouté, et tu sais qu'on vient de te dire ça va t'arriver, et tu t'imagines à quoi ça peut ressembler, mais t'as peut-être même pas vu en fait à proprement parler, et qu'on t'en montre beaucoup, et que tu vois oh là là, ah ouais quand même hein, la dame, oh là là, ça se voit, c'est pas beau, c'est machin, et que tu dis mais regardez cette dame là ce qui lui est arrivé derrière, après je lui ai mis un expander, après l'expander j'ai remplacé, après machin, et regardez comment elle est aujourd'hui. Et ben ça, si tu veux, il y a beaucoup de dames, ça va leur faire du bien, ça va apaiser leur angoisse. T'en as d'autres qui, au contraire, vont pas vouloir en entendre parler. Tu vois, et dans ce cas-là, ben, les gynécos, je te dis, moi, avec qui je bosse, ben, ils savent très bien gérer ça. Enfin, en général, quand je rencontre une patiente avant sa mastectomie, c'est des patientes qui en avaient vraiment besoin, c'est sûr. Tu vois, enfin, mais bon, t'as aussi des dames qui vont le faire d'elles-mêmes.
Tu veux dire qui en avaient vraiment besoin?
Oui, exactement. Où c'était le moment pour elles d'en parler. T'as des dames des fois qui vont le faire d'elles-mêmes aussi. C'est-à-dire que moi, tu sais, comme je suis un chirurgien libéral, je te disais, je suis libre d'accès aussi, en quelque sorte. Tu vois, bah, tu vas sur Doctolib, tapes mon nom, tu prends un rendez-vous avec moi. Il y a pas de. Et donc, j'ai une partie des patientes à Marseille qui, notamment, qui sont prises en charge pour le coup dans des services de cancérologie qui sont pas des services dans le privé. Donc elles vont être dans un centre anticancéreux, dans un hôpital public ou machin. Et là-bas, t'as souvent une tendance avec un parcours qui est un peu plus fléché, tu vois. Mais c'est plus parce que ils ont des cohortes en fait de dames, si tu veux, qui régulièrement, malheureusement, tu vois, c'est une maladie très fréquente, donc t'as un parcours de soins qui est très fléché en général dans les gros centres, et donc dans leur parcours, elles rencontreront un chirurgien réparateur et tout à un certain moment. Et ben, si tu veux, t'as des dames qui vont prendre rendez-vous avec moi en disant bon ben, on m'a dit que j'allais rencontrer le docteur Intel après mes rayons, après ma chimio, dans 6 mois, dans 3 mois, dans machin. Mais moi, en fait, d'abord, je sais pas qui c'est le docteur Intel. Vous, je vous connais parce que vous avez opéré ma copine, ma cousine, ma fille, machin, comme je te disais. Et en plus, j'ai pas envie d'attendre pour savoir à quoi je vais ressembler. Donc, j'ai pris rendez-vous avec vous. Bah, ces patientes-là, des fois, je vais juste faire une consulte où je vais leur donner des infos, en fait, hein. Je vais leur dire qu'est-ce qui est possible et tout. Et elles reviendront me voir des fois à la fin du traitement, ou des fois, juste, ça leur aura permis, en quelque sorte, de se sentir, enfin, de mieux savoir où elles vont, et puis après elles vont rester en prise en charge complètement dans le réseau où elles ont commencé leur traitement. Si tu veux, mais c'est vrai que la psychologie de la dame fait que c'est intéressant pour elle de rencontrer la perspective d'une reconstruction à un certain moment de son traitement. T'en as certaines qui vont te dire d'elles-mêmes, et c'est obsède en fait, ne me parlez pas de mon esthétique alors qu'en fait vous êtes en train de me dire que je vais peut-être mourir, je m'en fous, machin, foutez-moi la paix avec ça. Et t'en as d'autres qui vont te dire, mais je m'en fous de mourir presque, tu vois, enfin, c'est et je veux savoir à quoi je vais ressembler, qu'est-ce que vous allez me faire là, vous voulez m'endormir, vous voulez me couper un truc, mais montrez-moi à quoi ça ressemble, enfin, expliquez-moi quoi, pourquoi, comment, machin. Et donc celle-là, bah, les gynécos qui vont leur expliquer un quart d'heure, une demi-heure, leur sujet, qui est vraiment le sujet de la dissémination de la maladie cancéreuse, le machin, le risque, le truc, enfin, tu vois, les perspectives et du coup la nécessité du traitement tel qu'il est recommandé, parce que tu vois, tu as des guidelines, tu sais exactement telle forme de tumeur, telle taille, tel type de cellule, ah bah ça c'est mastectomie, ça c'est traitement conservateur, et puis c'est tout, c'est des choses qui ont, pour le coup, enfin, c'est très nuancé, c'est très complexe, mais en tout cas, c'est guidé. Tu vois, il y a des indications, il y a des recommandations. Et en fait, du coup, bah, c'est vrai que les patientes, si tu veux, qui se sentent des fois pas orientées, machin, vont d'elles-mêmes prendre un rendez-vous. En plus, tu sais, dans le monde dans lequel on est maintenant, moi, ça m'arrive d'avoir des visios pour ça. Des fois, j'ai des patientes qui prennent une consulte, une téléconsulte. La dame, elle est, en fait, tu sais, en Franche-Comté ou tu vois des trucs comme ça, machin. Elle te dit, bah moi, j'habite dans un endroit où je crois qu'il n'y a pas de chirurgien esthétique à plus de 100 km. Donc, de toute façon, il fallait que je prenne un truc visio pour commencer. Moi, j'ai vu votre profil sur Google, j'ai vu ce machin. Bon, je me suis retrouvé avec un rendez-vous avec vous et toi, tu vas la conseiller. Et parfois, tu en as une partie. Donc là, moi, j'ai des reconstructions des fois de dames. Ça, c'est arrivé un peu avec le Covid, qui habitent vraiment dans des endroits, tu vois, dans le Massif Central, une à Limoges, l'autre à Belfort, je sais pas quoi, machin. Et elles viennent à Marseille une fois de temps en temps se faire opérer parce que, ben, je te dis, ça, c'est un peu l'internet, le machin, le truc, ou les, tu sais, ou même des fois du bouche à oreille, mais qui fait que elles ont trouvé la réponse à leur question à cet endroit-là, bah, elles vont faire ça plus tard. Donc, elles vont attendre, enfin, quand elles auront fini leur traitement, elles vont prendre le train, vont venir se faire opérer, machin, et ça, t'as ça de temps en temps. Ça, bon, surtout parce que on est quand même dans, si tu veux, dans un sujet où à ce moment-là, il n'y a plus d'urgence. Donc, tu vois, elles peuvent faire un peu comme ça, aller prendre des avis à droite, à gauche et tout. Et je dis, c'est un domaine qui est vraiment très, très riche, la reconstruction mammaire. Il y a énormément de possibilités différentes et tu as des équipes qui sont aussi bien spécialisées dans certaines choses. Moi, je dirais que je suis relativement généraliste dans les possibilités de reconstruction que j'utilise, mais notamment, tu as certaines interventions qui sont... des interventions qui, tu veux, qui sont plus des prouesses techniques, on va dire, chirurgicales, et qui sont faites dans des grosses équipes, où tu as plusieurs opérateurs en même temps. Et ben ça, par exemple, tu as quelques centres en France, tu vois, c'est généralement dans les grandes villes, tu vois, donc tu as ça à Marseille, moi, dans la ville où j'exerce, tu as ça, évidemment, en région parisienne, à Lyon, tu as des équipes qui sont super, machin.
C'est quoi une prouesse chirurgicale, quand on parle de reconstruction mammaire, ça correspond à quoi?
Alors, ouais, le truc, si tu veux, qui est le plus, je pense, poussé et le plus moderne actuellement, c'est en fait, pour reconstruire un sein, tu as besoin de reconstruire le volume qui compose le sein et tu as besoin que ce volume soit entouré d'une peau de bonne qualité, grosso modo. Et donc, si le traitement du cancer du sein lui-même, les antécédents éventuels de la patiente font que tu as une peau de bonne qualité, tu vas pouvoir utiliser comme reconstruction de volume soit un volume prothétique, synthétique, tu vois, donc je t'expliquais, qui peut être éventuellement une prothèse d'extension, puis plus tard une prothèse remplie d'un gel de silicone qui a l'avantage de la souplesse par rapport à l'expandeur. Donc, tu vois, soit tu vas utiliser pour reconstruire le volume du sein de la graisse de la patiente que tu peux prélever par liposuction et injecter sous la peau thoracique jusqu'à que ça fasse un volume suffisant. Et surtout, ce qui se fait beaucoup, c'est la composition des deux. C'est-à-dire le fait d'avoir un peu de prothèse et un peu de graisse autour pour avoir en fait le beurre et l'argent du beurre un peu. C'est-à-dire, tu vois, une souplesse au contact et tout de la graisse, mais en même temps une fermeté, une tenue, tu vois, qui va te maintenir un peu la forme du sein. Et donc cette reconstruction composite, par exemple, moi, c'est celle que je fais probablement le plus souvent. Je dirais pas dire c'est ma préférée, mais c'est en tout cas celle que je suis amené le plus souvent à faire dans ma pratique. Et ben, il y a des situations en fait où la peau thoracique n'est pas susceptible d'accueillir soit une prothèse, même après expansion, soit un transfert graisseux par injection multiple tu vois, enfin injection répétée de graisse dans la poitrine, parce que la qualité de peau ne le permet pas. Ça, c'est souvent quand la tumeur au départ était grande et était proche de la peau et qu'il a fallu enlever beaucoup de peau, grosso modo, au moment de la mastectomie, et où les deux cumulés, souvent malheureusement, il y a eu beaucoup de rayons sur la paroi thoracique, beaucoup d'irradiation, tu sais, de radiothérapie post-mastectomie par exemple. Et donc la dame, elle a une peau qui est assez tirée, si tu veux, par la mastectomie elle-même, plus une peau qui a été irradiée, qui est fatiguée, quoi, par l'irradiation. On appelle ça la radiodermite, quand c'est vraiment une séquelle, si tu veux, sur la peau qui est important, mais sinon, en tout cas, tu as des séquelles de radiothérapie sur la qualité de peau qui font que tu sens que tu vas pas pouvoir expandre cette peau. Et dans ces cas-là, faut remplacer la peau qu'on a perdue et il faut toujours créer le volume. Bah, si tu veux, ça, par exemple, il y a une vingtaine d'années, disons, quand moi, je faisais mon internat, tu vois, quand je commençais, ce qui était relativement classique à l'époque, c'était de prendre de la peau du dos. Le lambeau s'appelle le muscle grand dorsal, donc tu prends la peau du dos avec une cicatrice en général qui est horizontale dans la branche horizontale du soutien-gorge, dans la branche dorsale du soutien-gorge, et avec le muscle grand dorsal, tu mettais ça devant, donc tu fais une intervention où tu fais passer ça devant, et tu mets ça par-dessus une prothèse. Donc, c'est-à-dire que tu as recréé le volume avec une prothèse et tu as recréé la surface de peau avec de la peau qui venait du dos dans une zone où la peau n'avait pas été irradiée, donc tout va bien. Cette opération-là, par exemple, elle est assez lourde, mais elle n'est pas très complexe. Moi, c'est une opération que j'utilise beaucoup encore aujourd'hui, pas forcément dans la reconstruction de la mère, mais dans la reconstruction du thorax à proprement parler, plutôt pour des blessures thoraciques ou des pertes de substances, ça s'appelle des moments où des gens se retrouvent avec la peau qui a été abîmée quelque part au niveau de la poitrine et qui ont besoin d'être recouverts. Ça peut être des séquelles d'infection, des séquelles de trauma. Moi, la dernière fois que j'ai eu à faire ça, par exemple, c'était sur un... chose qui arrive relativement régulièrement dans la région dans laquelle je travaille. Donc c'était un monsieur qui avait pris une plaie par balle, soit dans la poitrine. Et en fait, si tu veux, je sais pas ce que c'était comme carabine ou machin, mais tu vois, il y a une sorte d'explosion, tu sais, quand ça rencontre la peau, quoi. Et donc il manquait de la peau au niveau de la poitrine à ce monsieur. Et la chance qu'il avait eue, c'est que le truc avait été un peu tangentiel, donc ça n'avait pas du tout touché ni les poumons ni machin, mais ça lui avait créer un trou, si tu veux, au niveau de la peau de la poitrine. Donc, j'ai remplacé ça avec le muscle dorsal. Mais pour le cancer du sein, c'est un truc que je fais plus tellement souvent. Et ben, pourquoi je fais pas ça si souvent? Parce que il existe quelque chose que je trouve, moi, prodigieux. Donc, quand je te disais, il y a des prouesses. C'est que maintenant, il y a des techniques où tu peux prendre de la peau, soit dans le ventre, notamment, soit dans le bas du dos ou dans le haut de la fesse, soit dans le bas de la fesse ou dans le haut de la cuisse. Et tu peux prendre à cet endroit-là, un morceau de peau avec de la graisse. Donc, si la dame, elle a par exemple un peu de culotte de cheval, ben, tu vas plutôt te porter sur le côté cuisse ou machin. Si la dame, elle a un peu de bidon, elle a un petit peu un ventre en bas, machin, tu vas plutôt te porter sur le ventre. Mais en tout cas, tu peux prendre des unités tissulaires. On appelle ça un lambeau dans mon métier. C'est une partie de la peau du ventre, une partie de la peau de la cuisse ou de la fesse que tu vas déplacer avec les artères et les veines qui font son irrigation, qui font sa vascularisation, et tu vas mettre ça au niveau de la poitrine et tu vas rebrancher ça sous microscope avec les vaisseaux, en général mammaire interne, enfin peu importe, avec des vaisseaux sanguins qui sont à proximité du sein. Et en fait, ça veut dire que tu vas, comme on transplanterait un organe d'un patient à l'autre pratiquement, tu comprends, c'est une transplantation, mais d'homme, enfin de patient à patient.
Auto-transplantation, ouais.
Voilà, c'est une auto-transplantation. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc en fait, ça s'appelle un lambeau libre. C'est ça le mot médical pour ça. C'est-à-dire, le lambeau, c'est l'unité tissulaire. Donc t'as un lambeau de peau abdominale avec graisse abdominale ou un lambeau de peau fessière avec graisse fessière que tu vas pouvoir retirer vraiment de la fesse ou du ventre. Poser ça sur la table d'opération, pendant 2 minutes vraiment à l'extérieur de la patiente. Te déplacer au niveau de la poitrine, t'installer avec ton microscope et brancher ça sur les vaisseaux et hop, t'as refait un sein. Ben ça, donc, c'est pour moi de l'ordre de la prouesse, mais même si c'est fait quotidiennement, il y a des équipes qui sont en France, qui sont spécialisées là-dedans, qui font ça vraiment quasiment tous les jours et tout. Et cette chose-là, c'est prodigieux dans le sens où t'as en même temps apporté la peau et le volume, et surtout t'as une qualité de consistance de sein machin qui est naturelle dans le sens où c'est la qualité graisseuse, tu vois, un peu de c'est-à-dire que ça va avoir la souplesse d'un sein naturel. Ça nécessite au moins 2 chirurgiens plasticiens assez confirmés, c'est-à-dire tu vois, un qui prélève, un qui branche pour pas que la patiente elle reste endormie trop longtemps. Tu vois, c'est-à-dire que il faut que ça travaille en même temps sur le ventre et sur la poitrine ou sur la fesse et sur la poitrine et machin. Donc t'as besoin d'une belle équipe chirurgicale. Donc c'est pas des choses que font en général les chirurgiens libéraux solo, tu vois, comme moi, mais ça se fait plutôt dans des services de chirurgie plastique et pour le coup c'est vraiment des choses qui gagnent à être faites régulièrement. Tu vois, c'est un truc où t'as un protocole et tout, donc t'as des équipes qui en font beaucoup, qui font ça bien, qui ont des bons taux de réussite, tu vois, qui ont des trucs. Et à Marseille, moi, j'ai la chance d'avoir un service de cette qualité-là à côté de moi, quoi. Donc en pratique, si tu veux, quand je rencontre une patiente et que c'est ça la meilleure indication, je vais lui expliquer. Parfois, elle va me dire, non, mais en fait, vous êtes gentil, mais moi, une opération qui dure 4-5 heures, où je suis hospitalisé pendant plusieurs jours et où il y a un risque potentiel même d'échec et tout, c'est pas du tout pour moi, mais je voudrais quand même avoir un sein naturel, donc je vais accepter, enfin, un sein de consistance naturelle, donc je vais accepter, par exemple, de faire des transferts de graisse répétés avec la graisse qu'on aura liposuccée au niveau du ventre ou ailleurs, jusqu'à que vous m'ayez fait un volume de sein suffisamment important sans que j'ai à recourir à cette technique. Ça, je peux le faire quand la peau n'est pas trop abîmée. Mais si j'ai une patiente qui a une qualité de peau de la poitrine qui est vraiment trop limite, eh ben c'est ces patientes-là que moi je vais plutôt adresser, tu vois, aux équipes hospitalières là en l'occurrence, ou bien parce que la patiente elle-même elle a cette ambition de faire ce genre de reconstruction par lambeau, ou bien, enfin tu vois, c'est deux situations. C'est-à-dire elle présente une bonne indication Et je lui dis, bah, ça vaut le coup de le tenter, machin, puisque vous êtes motivé. Ou bien c'est, elle aimerait avoir une reconstruction, j'aimerais bien pouvoir lui proposer un truc simple. Je lui ai mis, mettons, de la graisse sous sa peau radiothérapée en injection une fois, deux fois, et je vois que ça n'a pas fonctionné suffisamment et que je vais pas y arriver comme ça. Et donc, je peux me retrouver à lui dire, vous devriez songer à cette technique-là. Et une fois de temps en temps, j'ai ces patientes-là qui, en fait, vont aussi me dire, non, mais moi, en fait, je laisse tomber, je veux pas un truc compliqué, je veux machin, et donc tu peux te retrouver un peu à jongler entre les deux. Là, je pense à une dame qui se reconnaîtrait sans doute, si elle écoutait l'émission de radio, mais j'ai pas besoin de... qui avec qui j'essaye en ce moment de faire une reconstruction composée de prothèses et de transferts de graisse, et pour laquelle, en fait, au moment où j'ai gonflé son expandeur un peu plus que ce qu'il aurait, que ce que sa peau supportait, elle s'est retrouvée avec tu vois, la cicatrice qui a commencé à se rouvrir, tu vois, c'est-à-dire que sa peau voulait pas se laisser distendre, tu vois, c'est-à-dire, donc en pratique, j'ai expansé sa peau une fois, deux fois, machin, puis à un moment donné, pendant l'expansion, j'ai senti que la cicatrice allait craquer. Bon, c'est après, c'est mon habitude et machin, donc j'ai été obligé de revenir un peu en arrière, de redégonfler, sinon j'avais risqué de tout perdre, tu vois. Et donc cette dame-là, bah, je suis en ce moment à dire, bon ben bah, voilà, là on n'a pas réussi à expandre plus que ça, peut-être qu'il faudrait prendre de la peau ailleurs, au niveau du ventre, au niveau du dos. Et donc elle m'a dit, non, non, vraiment, je veux pas un truc compliqué, donc c'est pas grave, on va gonfler plus doucement, on va attendre, machin, mais je veux continuer à rester sur un truc simple, où je fais juste une prothèse, machin, des opérations, je reste pas hospitalisé. Par exemple, cette dame-là, une de ses préoccupations majeures, c'est de pas dormir la nuit à l'hôpital, tu vois. C'est le truc con, hein, mais elle te dit, non, non, mais j'ai eu un cancer, j'ai eu machin et tout. Là, moi, maintenant, je fais que des choses en ambulatoire. Je veux plus, dormir une nuit à l'hosto. Et en fait, je me retrouve à trouver des solutions un peu, tu vois, au cas
C'est
par cas.
beau, ouais. Alors attends, parce que je vais récapituler un peu. Ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, il y a plein d'étapes. Il peut y avoir beaucoup d'étapes dans une reconstruction mammaire, premièrement. Deuxièmement, il y a plein de protocoles différents en fonction, évidemment, de la situation objective, mais aussi de la motivation de la patiente, de ce qu'elle a envie, elle, pour elle, etc. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est cette fameuse symétrisation des seins. C'est-à-dire qu'en fait,
Ah
quand
oui,
tu opères pour une
bien sûr.
reconstruction mammaire, on est d'accord, c'est systématique, tu es obligé de
Non,
donner l'autre.
non, 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 justement. Là, très intéressant, c'est si tu veux, on va dire historiquement, parce que donc je t'ai expliqué qu'il y avait toutes les interventions mises au point récemment et un peu ambitieuses servent souvent à gagner des étapes. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de te reposer ça, mais historiquement, tu prends un exemple d'une dame a eu une mastectomie. D'accord? Qu'on soit le jour de la mastectomie sur la table d'opération ou qu'on soit plus tard. Peu importe, en gros, elle a eu une mastectomie, ça veut dire qu'il n'y a plus de volume mammaire, il n'y a plus d'aréole, il n'y a plus de mamelon. Et il y a un sein contralatéral, un sein restant, qui a certaines caractéristiques. Il est plus ou moins gros, il pend plus ou moins, il est plus ou moins relâché. Okay? Là, on est à ce moment-là. Et tu as, en fait, une première chose à faire, a priori, c'est reconstruire le volume du sein mastectomisé. Donc ça, je t'ai expliqué que ça peut être fait par une prothèse, par un lambeau sur une prothèse ou par un lambeau tout court ou bien par plusieurs injections de graisse. Grosso modo, il existe encore quelques petits autres trucs, mais on va dire c'est l'essentiel. Une fois que tu as un volume d'un côté, le volume, surtout si c'est une prothèse machin, il n'est pas forcément de la même forme que le volume de l'autre sein. Même si tu as atteint le même volume, c'est pas forcément la même forme. C'est-à-dire que tu mets un soutif, tu mets tout ça dans un soutien-gorge, ok, c'est à peu près le même volume, ça te remplit le soutien-gorge pareil. Mais quand la dame elle enlève son soutien-gorge par exemple, le côté où il y avait eu le cancer, elle a une prothèse, tu vois, un truc ferme qui tient, qui est très haut et tout. Et de l'autre côté, par exemple, elle a son sein naturel qui pend un peu, tu vois, ou qui est plus gros ou plus petit, tu vois, enfin peu importe. En tout cas, qui est différent. Et à ce moment-là, cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la symétrisation du sein restant, où tu vas, par exemple, le remonter assez souvent quand la reconstruction initiale avait été la reconstruction du sein mastectomisé a été par une prothèse. Souvent, la prothèse, ça tient mieux. Donc, en gros, tu vas remonter le sein qui pendait, ou le réduire, et ou l'augmenter aussi. C'est-à-dire, parfois, je te donnais l'exemple de la dame un peu mince qui voulait deux seins plus gros, bah, tu vas expandre, le côté mastectomisé, puis tu vas lui mettre une petite prothèse du côté où il n'y a pas eu la mastectomie. Et en fait, cette deuxième étape, une fois que c'est remonté, une fois que tu as deux seins qui sont en gros à la même hauteur et de la même forme, à ce moment-là, tu peux faire l'aréole et le mamelon en étant sûr que tu les mets au bon endroit. On parlera dans
Ah, donc en fait, c'est pas fini pour le premier sein, c'est pas fini pour le sein qui a subi la chirurgie
Moi, en général, voilà, j'ai appris comme
cancer,
ça, mais
quoi.
j'ai tendance à faire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour être sûr, tu sais, c'est la touche finale un peu de la reconstruction, l'aréole et le mamelon. S'il n'est pas tout à fait au bon endroit, s'il est un tout petit peu trop au-dessus, trop en bas, c'est ça qui va te en gros, te donner le petit côté de « Ah zut, ça se voit que c'est un peu fake. » Tu vois, ça se voit que c'est un peu fait parce que ça dénote, ça louche un peu, c'est un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Et comme en fait, quand tu fais une chirurgie globalement de remodelage du sein, tu as une petite évolution derrière, de manière classique en gros. Tu as des seins qui pendent beaucoup, tu les remontes très très haut, mais 6 mois, 1 an plus tard, ils seront quand même légèrement redescendus, tu vois, par exemple. Et donc du coup, le sein symétrique, c'est-à-dire le sein qui te sert de modèle, qui est le sein contralatéral au cancer, tu vas le remodeler, mais il va quand même encore bouger légèrement après le remodelage, un petit peu, tu vois, il va redescendre un peu, se relâcher un peu ou autre. Et donc, c'est au moment où il s'est stabilisé en résultat de la symétrisation que tu es sûr de mettre ton aréole, ton mamelon au bon endroit, en quelque sorte. Bon, ça, si tu veux, c'est les étapes classiques. 3 étapes. Je reconstruis le volume, je symétrise le sein contralatéral, je fais une aréole et un mamelon. Mais en fait, tu peux sommer ces étapes dans plein de situations. Par exemple, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure de tu fais la mastectomie, mais en même temps, tu fais déjà la première étape, tu mets déjà un expandeur, par exemple, tu mets déjà une prothèse, donc tu as déjà reconstruit le volume, donc tu as fait l'étape. Il y a des gens qui vont, en même temps que la mastectomie, aller te remonter le sein contralatéral, parce qu'il pend terriblement, par exemple, et on sait qu'on va le remonter de toute façon, la patiente, elle est déjà d'accord, machin et tout, et on y va direct. Et ben là, tu as gagné 2 étapes. Tu as des gens qui vont te dire, non, mais moi, je suis sûr, j'ai l'habitude de ma technique, je sais comment évolue, moi, ma technique de symétriation, je sais qu'il va redescendre de 4 mm, parce que je sens bien la consistance de peau comme ça, donc je vais déjà te faire le mamelon en face, là où je pense que ça va tomber, tu vois. Et en fait, t'as des gens qui, parce qu'ils ont beaucoup l'habitude et tout, vont faire ça, franchement, très correctement. Moi, j'avoue que l'aréole et le mamelon, j'aime vraiment bien quand c'est la patiente qui choisit où on les met, en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire quand elle a pu observer son résultat avec ses deux seins symétriques et que elle peut les regarder dans le miroir debout, machin, tu vois, quand il n'y a plus les pansements, et que avec elle, tu vas dire, tiens, moi, je la verrais bien ici. Et donc, en fait, on joue avec des petits, tu sais, des petits autocollants. Moi, avec la patiente, je place l'aréole et le mamelon. Tu vois, elle est devant un miroir. On amène des petits, tu sais, t'as des petits machins que tu peux acheter sur Amazon, des petits mamelons fake, quoi, tu vois, en silicone, en machin, que tu colles, tu vois, sur ta peau. Et en fait, comme ça, tu cherches à quel endroit vraiment ça le fait bien. Parce que, en fait, deux seins sont jamais totalement symétriques. Avant même le cancer, je te parle. Hein. De toute façon, si tu veux, les gens sont pas symétriques, en fait. Enfin, y a des petites asymétries de toute façon chez tout le monde, tu vois, avec une épaule un peu au-dessus de l'autre, un peu en avant de l'autre, les côtes qui sont un petit peu décalées, machin, et qui sont en fait l'asymétrie naturelle des gens, tu vois, en quelque sorte. C'est-à-dire que, enfin, n'importe qui là qui nous écoute prend 2 secondes pour se regarder dans la glace. Les deux seins sont pas tout à fait identiques, les deux épaules sont pas tout à fait à la même hauteur, machin, mais cette asymétrie-là, c'est la tienne, en quelque sorte. Elle est naturelle, tu vois. Et au moment où tu poses le mamelon, tu vas sentir, en fait, enfin, que ça y est, c'est enfin un sein. Sinon, c'est vrai que quand t'as pas encore l'aréole et le mamelon, tu vois, ça saute aux yeux qu'il y a une modification. Mais au moment où tu le mets, même s'il y a une cicatrice, même s'il y a une légère asymétrie, si c'est bien placé, bien au bon endroit, d'un coup, ça va bien parfaire la reconstruction. Et je trouve ça assez intéressant de vraiment faire un peu participer, limite, la patiente à ce choix-là et tout. Moi, donc, j'aime bien. Mais quand j'ai des patientes qui insistent pour que ce soit fait très tôt parce qu'elles y tiennent beaucoup, elles me convainquent, hein. Je veux dire, c'est pas un truc sur lequel je suis borné. Mais il me semble que je donne le meilleur de ce que je peux faire quand l'aréole est faite un peu en dernier lieu, pile au bon endroit, tu vois, en ayant eu le temps de réfléchir.
Et on en revient en fait à ce que tu dis depuis le début et que je trouve très joli dans ton métier, c'est-à-dire que le bon sein, la bonne aréole, le bon mamelon, c'est celui que elle
Ah ouais,
pense
ah, c'est
que c'est
sûr.
beau.
Ah, c'est sûr, tu ne peux pas t'imaginer. Et je te dis, c'est vraiment. Par exemple, donc, tu allais me dire, donc, la symétriation est obligatoire. Je sais pas si tu te rappelles, on s'est lancé, je suis désolé, dans cette digression pour ça. Tu as des dames qui, ah, non, évidemment, non, la symétriation, elle n'est pas obligatoire. Si, en fait, une dame, elle trouve que son sein restant, il est parfait, qu'elle veut surtout pas qu'on y touche. Tu as des patientes qui ont presque envie qu'on leur enlève, tu vois, en se disant, mais de toute façon, c'est bon, j'ai peur d'avoir un cancer de l'autre côté. Et t'en as d'autres qui te disent, déjà que je me suis pris plein d'interventions sur l'autre sein, je veux pas qu'on touche à celui-là jamais. Et ben, si ce sein-là, par exemple, il pend beaucoup, et ben, c'est là que c'est le plus difficile pour nous de reconstruire l'autre, en fait, paradoxalement. Parce que, et ouais, voilà. Et donc, si elle a un sein qui est très relâché du côté du sein restant, c'est là où en fait les seules interventions qui peuvent te produire un sein vraiment très relâché, c'est les interventions dont je te parlais, où tu apportes vraiment de la graisse et de la peau molle, tu vois, de la peau molle que tu vas chercher dans le bas du ventre d'une dame qui a déjà fait des enfants, par exemple, et qui a vraiment un ventre qui, tu vois, relâché, ou je te dis au niveau de la fesse ou de la cuisse d'une dame qui est un peu d'embonpoint, qui a machin et qui a vraiment du relâchement. Et ça, Donc, bah, les gens, je te dis, qui font beaucoup de l'embolie en reconstruction amère, comme l'équipe à Marseille du CHU, ils font ça vachement bien. C'est dommage de pas proposer ça à une patiente quand c'est ça qu'elle veut. Mais quand même, faut reconnaître qu'une bonne partie des dames qui ont un sein restant, qui pend, qui est relâché, qui est mou, elles ont pas, enfin, ça les dérange pas tellement si tu le remontes, quoi, tu vois, elles sont contentes. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a quelqu'un qui, des fois, qui disent, non, mais je veux rester le plus d'origine possible, en fait. Je veux le moins de modifications possible. Et à ce moment-là, bah, l'embolie, c'est sans doute celui-là qui est intéressant.
Et alors, j'ai une dernière question.
Oui, je t'en prie.
Parce que c'est intéressant, c'est toi qui l'as évoqué, c'est le syndrome Angelina Jolie, c'est-à-dire ces femmes qui arrivent et qui ont tellement peur. Bon, qu'est-ce qu'en fait ces patientes?
Alors, en fait, complexe. C'est-à-dire qu'en France, et c'est déjà assez prodigieux quand même, quand tu as une famille, en fait, où on a trouvé qu'il y avait une incidence un peu importante de cancer du sein, ou qu'on a déjà un individu qui a été dépisté comme présentant une mutation génétique. Donc la plus connue, c'est celle effectivement qui touchait Angelina Jolie, c'est la mutation BRCA. Il en existe d'autres et tout, mais celle-là, c'est vraiment de très loin celle qui prédomine dans les cancers gynécologiques, en gros. Quand en France, donc on fait du dépistage oncogénétique, il y a des jeunes femmes en France qui, parce que leur mère, leur tante ou leur cousine ou machin a fait un cancer du sein, on va les contacter en leur disant, il faudrait qu'on vérifie chez vous aussi, et on va leur annoncer, elles ont des fois 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous avez cette mutation, donc vous avez une probabilité qui est des fois, je crois, plus de 95% hein, de faire un cancer du sein avant d'avoir atteint 60 ans, tu vois, ce genre de truc. Et donc, dans ce cas-là, ces dames-là, déjà, t'en as certaines qui vont dire, bon, tu vois, elles apprennent ça. Mais ça touche aussi, et malheureusement, les autres organes. Enfin, ça touche l'utérus potentiellement aussi, ou les ovaires, ou machin. Donc, elles ont besoin d'avoir plusieurs choses qui vont être faites. Et en fait, ces patientes-là, par exemple, quand elles appellent ça à 30 ans, il y en a certaines qui vont dire, bon, ben, j'ai quand même gardé mon utérus pour l'instant, je vais faire des enfants, et après, on me l'enlèvera, s'il faut, tu vois. Et le même raisonnement est possible potentiellement pour le sein. Donc, elles vont te dire, ben, moi, j'ai envie d'allaiter mes enfants, machin, donc je ferai après. Et donc, pendant toute cette période-là, tu vas les surveiller très régulièrement. Comme, même si elles ont 30 ans, tu vas leur faire des mammographies, mettons, tous les ans, tous les 6 mois, ou machin. Déjà là, malheureusement, parfois, avant même qu'elles aient eu le temps de se dire, tiens, je vais faire des mastectomies prophylactiques, on appelle ça, c'est-à-dire à visée préventive, il leur arrive un événement, il leur arrive une tumeur, et elles se retrouvent donc dans le cas numéro 1, dont je t'ai déjà parlé. Elles vont faire la mastectomie, le machin, le traitement du cancer. T'as sinon donc des dames qui se présentent vraiment au début, elles n'ont pas encore eu de maladie cancéreuse, elles ont le diagnostic, et elles font volontairement une mastectomie bilatérale à visée préventive. Et là, dans ces cas-là, c'est assez simple, en fait. Enfin, assez simple pour moi, hein, je veux dire, au niveau plastique. Tu leur reconstruis deux seins. Donc, en fait, comme tu dois en reconstruire deux, il suffit que tu fasses la même technique des deux côtés. Grosso modo, ça sera symétrique. Si tu mets deux prothèses, tu mets la même, ça va le faire. Tu vois? Et donc, au niveau plastique, c'est plutôt confortable comme situation parce qu'il n'y a pas encore eu de radiothérapie. Il n'y a pas encore eu de maladie à proprement parler. T'arrives, tu fais la mastectomie bilatérale prophylactique, elle s'appelle. Souvent, d'ailleurs, on la fait en conservant l'aréole et le mamelon, c'est-à-dire en concédant le fait que potentiellement ces dames, elles peuvent faire une tumeur sur l'aréole et le mamelon, mais c'est relativement facile à surveiller, on prend ce risque-là, par exemple. Tu vois, c'est un truc, un compromis qui est fait assez souvent. Parfois, il y a des dames qui vont vouloir qu'on enlève aussi l'aréole et le mamelon. Honnêtement, comme je t'expliquais tout à l'heure, reconstruire deux mamelons, c'est plus facile que d'en reconstruire un seul. T'as pas de modèle. Tu fais les deux mêmes et c'est bon, quoi. Tu vois, donc en fait, c'est pas non plus terrible pour nous. Enfin, c'est pas non plus gênant, machin, selon les choix qui sont faits. Et donc, ces patientes-là, en France, elles sont gérées comme ça. Mais là où il y a un truc qui, à mon sens, peut-être est encore un truc qui va faire réfléchir, quoi, les gens qui font ce métier-là, que ce soit moi ou les gynécos, les oncologues, c'est les dames qui ont un événement unilatéral, qui ont ça assez jeune, par exemple, et dans une famille où il y a eu un certain nombre de cancers, mais on n'a pas isolé de risque génétique vrai. Donc ces patientes-là, elles ont, mettons, 40, 45 ans, elles ont déjà un cancer d'un côté, et elles te disent, est-ce que vous êtes sûr que j'en aurai pas un de l'autre? Parce que sinon, moi, je veux bien que vous m'enleviez en même temps, et comme ça, vous me faites une reconstruction symétrique, et puis on n'en parle plus. Et ben, ces patientes-là, pour l'instant, si tu veux, quand elles ont cette inquiétude-là, on continue à, je pense, chercher un argument, si tu veux, génétique pour voir si c'est nécessaire de faire ça. Mais sinon, pour l'instant, on leur propose pas, à proprement parler, de faire une mastectomie préventives quand on n'est pas sûr qu'elles ont un sur-risque. Tu vois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur le plan purement du chirurgien réparateur, c'est plutôt confortable, en fait. Une situation où il y a deux seins à reconstruire, il suffit de faire la même chose des deux côtés, tu atteins assez vite un résultat symétrique, forcément. Tu vois. Donc, c'est vrai que c'est pas... Mais bon, en tout cas, en France, on est je pense, plutôt bien positionné là-dessus sur... la recherche, c'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'il y a un cancer du sein chez une femme particulièrement jeune ou plusieurs cancers dans la famille, il y a une proposition de consultation oncogénétique, mais c'est des trucs assez longs. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu te poses la question et le moment où on est sûr et tout, il y a un parcours qui est assez long, notamment parce qu'il y a des examens eux-mêmes qui mettent des fois très longtemps à être interprétés, machin. Donc c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain.
D'accord. Merci beaucoup, Julien, pour tous ces éclaircissements.
Je t'en prie. Merci pour ton écoute là, parce que je crois qu'on a fait un peu plus longtemps que ce qu'on espérait.
Ah, bon, c'était très intéressant. Merci infiniment.
Je t'en prie.
Très bonne journée.
À toi aussi. Au revoir.